Hello et bienvenue dans What Else, le podcast de Future for Care. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un nouvel entrepreneur avec un parcours, vous le verrez, dense, enrichissant. C'est un véritable pilote d'hypercroissance, moi j'ai envie de l'appeler comme ça. Aujourd'hui, il est CEO de Care. Salut Olivier Thierry.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, dans la plupart des podcasts, je le dis à chaque fois, je le répète, on a toujours tendance à demander à l'invité de se présenter, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Si tu l'accèdes, pour commencer, on va inverser les rôles et c'est moi qui vais te présenter. Ça te va ?
Vas-y.
Bon. Écoute, je me suis posé sur mon ordinateur et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais écrire qui sorte un petit peu du profil LinkedIn classique. Je vais reprendre quelques lignes, mais voilà, pour commencer, je vais parler de classique, puis après on va aller sur des caractéristiques qui te sont propres. Tu es diplômé de l'ESSEC, tu es passé par McKinsey, tu as fait du M&A, tu as gravi les échelons chez SAP. Ça, c'est la partie un peu plus classique, même si c'est déjà hors du commun. Mais c'est en 2013 que tu développes ce que j'appellerais ta marque de fabrique, celle de scaler des startups. Tu entres dans cet écosystème bouillonnant, celui des startups, en prenant d'abord la direction des opérations de la fourchette, qu'on appelle aujourd'hui The Fork. 5 années qui sont assez folles, en tout cas j'ai l'impression qu'ont été assez folles, avec une croissance exceptionnelle, et puis notamment un passage, tu es arrivé dans la boîte avec 130 collaborateurs, tu en es sorti avec 750 collaborateurs, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Tu nous raconteras tout ça. Puis en 2019, la partie qui nous intéresse certainement le plus aujourd'hui, quelques mois après le coup d'accélérateur pour la téléconsultation en France et 2 ans après le lancement de Care, tu rejoins cette boîte en tant que CEO. Bon, Care, c'est une très belle réussite française, je dirais même européenne. Tu nous en parleras aussi. Donc voilà, pour moi, tu es un entrepreneur. Tu n'es pas l'initiateur des deux pépites que je viens de citer, mais tu es celui qui les a aidés à grandir. Donc, c'est tout comme, tu es entrepreneur. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que tu veux compléter ?
Non, je crois que tu as dit l'essentiel, effectivement. Après, j'ai aussi, au début des années 2000, et puis après, j'ai créé quelques petites boîtes, enfin deux petites boîtes, pour être plus précis. Mais effectivement, moi, ce que j'aime, c'est la croissance et amener des sociétés à un niveau, de partir de très petit et les amener à un niveau qui est carrément beaucoup plus grand.
Des belles PME, voire ETI d'ailleurs. Je pense qu'on arrive à 750 salariés, on est considéré comme ETI.
Oui, si on veut.
Oui, bon, c'est du jargon. On nous a fait un retour sur les derniers épisodes. Moi, j'ai toujours tendance à rentrer directement dans le vif du sujet et à partir sur les sujets qui m'intéressent. Mais peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer Care, ce que fait Care et les métiers de Care aujourd'hui ? Je dis les métiers parce que j'ai l'impression que vous êtes sur plusieurs fronts.
Alors, Care a pour mission de faciliter l'accès aux soins, aux patients, et de faciliter l'accès à des soins de qualité. Donc, on est le numéro 2 de la téléconsultation en France, téléconsultation médicale, avec plus de 50 spécialités 7 jours sur 7, et qui permet à tout le monde de téléconsulter un médecin ou un professionnel de santé non médecin à partir de son ordinateur ou son téléphone mobile. Et aujourd'hui, on travaille à la fois avec des médecins salariés et des médecins libéraux qui nous consacrent une partie de leur temps. Ça facilite l'accès aux soins, mais c'est vrai que la téléconsultation c'est juste un début dans notre mission, puisque notre mission c'est d'aller beaucoup plus loin et de marier ce qu'on appelle l'expertise digitale avec l'expertise humaine et tout ceci pour fournir davantage de modes d'accès aux soins et surtout des soins de meilleure qualité en enrichissant à terme la téléconsultation avec tout un tas d'outils, et pour les médecins et pour les patients, d'objets connectés, tout un tas d'autres choses.
Tout ce que tu dis là amène pas mal de questions. Je pense que ça peut être un bon conducteur pour notre échange. Juste avant, j'aime bien parler des précédentes expériences de chaque invité, parce que ça en dit long derrière aussi sur ce que tu es en train de dessiner aujourd'hui. Donc je le disais, en fait, tu as rejoint il y a quelques années La Fourchette, qui est devenue The Fork, suite au rachat. Je me pose une question qui peut paraître peut-être simple ou bête, mais tu es chez SAP. Comment est-ce que tu te retrouves à passer d'une boîte comme SAP, une grande boîte internationale, à La Fourchette ? C'est une question de réseau ou ça s'est fait comment ?
Comme souvent, c'est une question de hasard et de chance. Tout d'abord, au début des années 2000, j'avais co-créé une boîte dans les technologies mobiles qu'on a revendue au bout de 5 ans. Et j'étais un peu rincé de ces cinq années assez éprouvantes. Et SAP était venu me chercher pour des postes, pour un poste au niveau global. Puis ensuite, j'en ai eu d'autres. Et je me suis dit, pourquoi pas, voilà, je viens de faire 50 startups, je vais essayer quelque chose de complètement différent. Et je me souviens, j'ai commencé et le premier soir, je suis rentré chez moi et j'ai dit à ma femme, bon non, je démissionne, là, parce que c'est pas pour moi.
Voilà. C'est pas la même culture.
C'est pas la, voilà, il y a du PowerPoint partout, il y a plein de process, il y a plein de trucs, ça va pas le faire. Et elle me dit, attends, t'es gentil, mais non, tu vas continuer encore un petit peu. Voilà. Et puis, en fait, j'y suis resté 8 ans et j'ai passé une super expérience parce que les gens étaient fantastiques. Voilà, les gens étaient vraiment super. Et un soir, c'était au bout de 7 ans, quelque chose comme ça. Et je savais que je retournerais dans le monde de la start-up et de la scale-up parce que c'était quelque chose qui me démangeait. Je savais que SAP serait une pause. Et un soir, lors d'un dîner, je crois que c'était un dîner de l'EBG, l'Electronic Business Group, je me retrouve à table à côté de Bertrand Gelonsberger, qui est le fondateur de La Fourchette, et j'essaie de lui vendre SAP. Je dis, mais tu sais, c'est pour les startups, on a des solutions, c'est super, etc., etc. Et puis le lendemain matin, je me réveille et je me dis, mais non, mais en fait, c'est pas ça la conversation qu'on aurait dû avoir. Sa boîte, j'adore ce qu'elle fait, c'est super, ils sont encore petits, il y a plein de trucs à faire. Et donc je l'appelle, ou je lui envoie un texto, je crois. Et je lui dis, mais en fait, on n'a pas eu la bonne conversation hier soir. Moi, ce que j'aimerais, c'est venir te rejoindre et puis développer la boîte dans 10 pays. Lancer la boîte dans 10 pays. Et il m'a dit, bah écoute, c'est intéressant, petit déjeuner ensemble. Et puis en fait, pendant 6 mois, il n'a pas le temps, j'ai pas le temps, on pense à autre chose, etc. Et puis finalement, un jour, il m'envoie un SMS en me disant, écoute, je cherche un numéro 2, un CEO, est-ce que ça t'intéresse? Et donc voilà, 6 mois ou je crois 9 mois plus tard, on fait affaire ensemble et je rejoins l'aventure.
La boîte s'était déjà fait racheter ou pas?
Non, ça s'est fait racheter un an plus tard.
Un an plus tard.
Ouais.
Okay. On en reparlera de rachat un an ou 2 ans plus tard.
J'ai l'impression que quand je rejoins une boîte, en fait, elle se fait racheter un ou 2 ans plus tard.
Et je pense que c'est pas un hasard, parce qu'on parle d'hypercroissance, on reviendra dessus, parce que, bon, sans spoiler, effectivement, Care que tu as rejoint s'est fait racheter il y a quelques années par LCRO. J'imagine que ton travail aussi de scaler fait que l'entreprise aussi arrive à un stade où soit elle prend une autre dimension sans en racheter, ou soit elle lève des fonds. Enfin, je veux dire, elle arrive à un moment où il faut qu'elle tourne une page. Quand on arrive à 750 collaborateurs, c'est difficile de se débrouiller tout seul, en tout cas, pour continuer à grandir.
Oui, enfin, tourner une page, c'est continuer l'aventure. Chaque phase d'une société est différente. Et donc, d'ailleurs, un rachat, ce n'est pas du tout une fin. Il y a beaucoup de gens qui voient un rachat comme une fin. Non, c'est un début, c'est un nouveau chapitre.
J'imagine que ça dépend aussi de tes conditions de revente aussi, c'est lié
à ça. Oui, tout à fait.
Plus qu'autre chose. Tout comme une levée d'ailleurs, je pense qu'une levée peut être une fin d'aventure aussi. Qu'est-ce que tu retiens de ces, tu disais, 7 années c'était chez SAP, t'es passé 5 ans chez La Fourchette ?
Oui, 5-6 ans chez La Fourchette, 8 ans chez SAP, oui.
Qu'est-ce que tu en retiens et finalement, qu'est-ce que tu as appris qui fait qu'aujourd'hui tu es encore un meilleur entrepreneur et un meilleur chef d'entreprise chez Care ?
L'importance de la qualité des gens, l'importance de la collaboration ensemble, l'importance d'avoir des processus rigoureux et de la structure qui permettent de guider la croissance.
Tu disais tout à l'heure que tu as créé une entreprise, tu as créé une ou plusieurs entreprises j'ai bien fait mon travail avant qu'on échange, je suis allé sur ton LinkedIn, j'ai vu effectivement toutes ces entreprises que tout le monde connaît, McKinsey, SAP, etc. Je suis passé à côté de ces expériences entrepreneuriales que tu commençais à décrire. Qu'est-ce qui s'est passé justement début des années 2000? Tu me disais que tu as créé une boîte pendant 5 ans. Est-ce qu'il y a eu d'autres aventures avant, après, entrepreneuriales?
Une petite, mais j'ai créé une maison d'édition dans les années 2000, je ne sais plus, 2000, peut-être 2005.
Mais tu étais en poste à côté?
Oui, tout à fait. Et je travaillais là-dessus le soir et le week-end.
Okay.
Voilà, une maison d'édition que j'ai tenue pendant 10 ans et que j'ai revendue il y a quelques années.
Qui était verticalisée?
Oui, c'était sur la bande dessinée.
Ok. Okay. Donc, t'es vraiment multidisciplinaire.
Bah, c'est un de mes hobbies. Voilà, et ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des choses là-dedans. J'avais même discuté avec certains groupes pour reprendre la tête de, de certaines maisons. Et puis finalement, voilà, je voulais que ça reste un hobby. Et donc, j'ai créé cette petite société qui éditait un magazine, qui existe toujours d'ailleurs,
okay.
sur la bande dessinée.
Ok, chouette expérience. Après, ça t'aurait peut-être éloigné un peu trop de la tech aussi. J'ai l'impression que c'est ça que t'aimes.
C'était assez éloigné de la tech, mais c'était très sympa. Et puis, l'équipe était super. Comme toujours, on garde les souvenirs qu'on garde, les bons souvenirs sont les gens.
Je te demanderai pas de citer les gens que tu retiens, mais en tout cas, j'en ai déjà retenu au moins un nom, fondateur de La Fourchette. Non, je le disais il y a deux secondes, tu es assez multidisciplinaire. Alors, je rajoute du coup l'édition de BD, mais tu as fait du M&A, des opérations, tu fais pas mal de business développement, de la tech, pas de la tech. Qu'est-ce qui t'a amené à rentrer dans le monde de la santé, à rentrer chez Care en l'occurrence? La santé, c'est un milieu hyper fermé, hyper réglementé. Alors, je te le sors de manière hyper négative, mais il y a aussi plein d'avantages. Hyper réglementé, hyper fermé, très difficile aussi de trouver un business model dans la santé, j'ai l'impression, par rapport à d'autres industries. Qu'est-ce qui t'a séduit avec cette industrie et qui t'a motivé derrière à rejoindre Care?
Alors, c'est un secteur très fermé, mais très important. Je veux dire, la santé va devenir de plus en plus importante dans nos vies, de la même manière que certains autres secteurs. Et également, c'est un domaine dans lequel je baignais un petit peu, parce que je ne suis pas médecin, mais mon frère est médecin, mon grand-père était médecin, psychiatre. J'ai plusieurs autres personnes dans ma famille qui sont médecins. Donc j'ai un petit peu baigné là-dedans. Et moi, quand tu regardes le fil conducteur de ce que j'ai fait, de ce qui m'intéresse, d'abord, je suis dans la tech depuis 20 ans, parce que même quand j'étais chez McKinsey, tu as mentionné les M&A, mais j'ai fait...
Spécialisé en tech.
J'ai fait plein d'autres choses, et notamment, j'ai travaillé beaucoup dans la tech, au tout début de l'Internet. Ce qui m'intéresse, c'est de créer la société de demain, de créer les nouveaux services, d'inventer les nouvelles manières dont les gens ou les boîtes vont vivre et vont fonctionner demain, grâce aux apports que peut amener la technologie. Et je me souviens quand j'étais à La Fourchette, un soir, enfin je travaillais beaucoup, je travaille toujours beaucoup, et un soir je travaillais, je crois, et ma femme me dit, bon, arrête de travailler, je sais plus si elle me dit un truc genre, voilà, viens dîner, bon ça va, et je lui disais, non mais attends, c'est super important ce que je fais là. Elle me dit, ouais, bon ça va, c'est pas comme si tu sauvais des vies. Et je lui disais, non, mais attends, c'est important quand même que les gens passent un bon moment au resto, c'est pour eux, pour leur vie, c'est important. Et puis après, je me disais en mon fort intérieur, ouais, bon, en fait, elle a raison quand même. Voilà, c'est pas comme si je sauvais des vies. Et donc, cette petite musique était un peu restée voilà, en moi. Et en même temps, j'éprouvais encore le besoin d'innover, c'est-à-dire qu'on était arrivé à un niveau, comme tu l'as dit, de scale-up, de boîte mature, en fait, hein, au niveau de La Fourchette. J'avais envie d'innover davantage, de nouveau. Et donc, à un moment, on m'a approché pour l'aventure Care. Et j'ai pas hésité. Je me suis dit, bah, c'est exactement, voilà, c'est de la techno. Ça a un impact sur la vie des gens, un vrai impact. C'est l'invention de la manière dont on va vivre demain. Voilà, j'ai presque pas hésité.
C'est une très, très bon timing, on va revenir après, puisqu'il y a, sur le plan, j'allais dire, réglementaire, il y a eu pas mal d'évolutions en 2019. J'ai juste une question avant. Quand on parle d'entreprise, quand on parle de start-up, on parle d'entrepreneurs et donc de personnes physiques, derrière Care, c'est surtout, en fait, j'allais dire une personne morale, mais c'est une structure, c'est Kamet. Tu peux nous dire deux mots sur Kamet, parce que je suis assez... fasciné par ce modèle des start-up studios. Et je me demande notamment comment est-ce qu'on, quand on crée dans un start-up studio, donc quand on est une entreprise, quand on crée une structure, une start-up, comment est-ce qu'on fait pour embarquer les gens, sachant qu'on est une entité morale et pas une entité physique. Donc c'est plus difficile, j'imagine, cet exercice.
Alors Kamet Venture, c'est un start-up studio qui est une petite équipe qui crée des boîtes, des business models, et ensuite qui vont chercher... des gens pour exécuter sur ce plan et sur ces business plans. Donc c'est ce qu'ils ont fait avec Care, c'est ce qu'ils ont fait également avec d'autres boîtes dont certaines viennent de faire des jolies levées, donc il y a un certain nombre de succès à leur actif. Et ensuite, bah, motiver les gens, ça se fait au travers du support que peut apporter le board, support je dirais, au niveau de la réflexion stratégique, du support financier. Donc c'est presque comme une boîte, une start-up comme une autre.
C'est en fait, j'imagine que le luxe d'avoir un start-up studio, c'est de ne pas avoir à choisir et de pouvoir aller sur différents sujets, différentes problématiques.
Oui, voilà, de leur point de vue, ils sont à moitié entre VC et serial entrepreneur. C'était une machine à business case dans lesquelles ils voulaient à la fois investir, mais pas opérer eux-mêmes.
Et pour les équipes, j'imagine que c'est intéressant, c'est qu'on ne part pas vraiment de zéro, il y a déjà des ressources, il y a déjà...
Exactement.
Okay. Donc je le disais, c'est une question de timing, parce que toi, tu as rejoint l'aventure en 2019, au moment où il commence à y avoir une bascule, puisque la téléconsultation a été remboursée depuis 2019. Alors, elle n'a pas été lancée en 2019, mais je pars du principe que vu qu'elle n'était pas remboursée en France, ça n'a pas tant que ça de valeur. Care lancée en 2017, donc du coup, précurseur. Et je ne sais pas si d'ailleurs vous n'étiez pas parmi les premiers, si ce n'est le premier, un des premiers en tout cas à faire de la téléconsultation.
Oui, il y a eu quelques expérimentations sur la téléconsultation par ailleurs, mais c'était le vrai premier acteur à se spécialiser, à se focaliser vraiment sur ce secteur. Ensuite, la téléconsultation a commencé à être remboursée, effectivement, mais dans une portion congrue. Hein. Il fallait remplir un certain nombre de critères. La porte était très étroite pour se faire rembourser. Et puis ensuite, il y a eu la période Covid, avec une période de régime dit dérogatoire, dont on va sortir bientôt d'ailleurs. Donc la téléconsultation va être de nouveau parfois remboursée, parfois pas remboursée, parfois partiellement. Enfin, tout ça est un peu compliqué.
Encore compliqué, oui. Ok, bon, on va revenir sur ces différentes étapes, mais 2017, du coup, c'était pas encore. Je parle de tendance, on parle encore une fois de passion et c'est pas un sujet marketing, mais quand on lance une entreprise, surtout dans un startup studio, l'idée c'est de pouvoir créer une entreprise qui a vocation à grandir, à croître. 2017, c'était pas forcément gagné pour la téléconsultation. Qu'est-ce qui a motivé? C'était quoi l'élément déclencheur, la motivation initiale de l'équipe derrière Care? Pourquoi téléconsultation et pas autre chose?
Bah, ils pensent d'abord, pourquoi la téléconsultation n'est pas autre chose? Il y a également autre chose, puisqu'ils ont créé plusieurs boîtes. Voilà. Mais sur la téléconsultation, il y avait une croyance forte qui était que les technologies digitales permettraient de faciliter l'accès aux soins et aussi une reconnaissance du fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, et de plus en plus, à accéder à un médecin quand ils en ont besoin. Et que donc, ça fait du sens. La téléconsultation est presque une évidence. Voilà. Donc à partir du moment où on a dit ça et on a envie d'y aller, on y va, on met les moyens, on le fait de manière sérieuse, rigoureuse. Et voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas été les seuls à se monter, parce que je crois que il y a 2 ans, on avait recensé quelque chose comme 135 sociétés en France qui faisaient de la téléconsultation.
Okay. C'est énormissime.
Bon, je pense qu'il n'en restera pas beaucoup bientôt.
C'est le principe d'une consolidation et on se parlera aussi tout à l'heure du contexte économique actuel. Je pense qu'il y a effectivement, il se passe quelque chose. Je suis curieux d'avoir ton avis sur le sujet. Je voudrais juste qu'on revienne sur le Covid. On pose souvent la question de savoir est-ce que le Covid a été porteur de changement. Et oui, évidemment que oui. Évidemment que le Covid, malgré le fait que ça reste une pandémie, que c'est quelque chose de tragique, a permis de faire bouger les usages. Mais j'ai un chiffre dont je voudrais parler avec toi. Je crois savoir qu'il y avait à peu près moins d'1% des consultations qui étaient en téléconsultation versus face à face. Avant le Covid, on est passé à 25% pendant le Covid, de ce que j'ai compris. Et là, on est redescendu à 5%. Comment est-ce que tu expliques cette baisse? Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ou qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça reparte à la hausse et que ça soit quelque chose d'un peu plus démocratisé?
Alors, nous déjà, on est à la hausse de manière constante. Donc, le marché a rebaissé après le Covid. Mais pour des raisons assez simples, c'est que le passage à 20-25% de téléconsultation pendant la période Covid, en particulier pendant le premier confinement, c'est que les cabinets médicaux étaient fermés. Voilà, donc, il n'y avait pas... beaucoup de médecins n'avaient pas le choix, pas d'autre choix que de contacter leurs patients, parfois même juste simplement par, par WhatsApp, par téléphone, par Skype, par SMS, et puis ensuite ils notaient ça comme une téléconsultation. Voilà, donc c'est ce qui a amené à ces chiffres de ces chiffres très élevés. Mais une vraie téléconsultation sécurisée, encryptée, avec prescription électronique, avec compte-rendu électronique, avec suivi, etc., c'était pas 25%, hein, c'était beaucoup moins. Donc aujourd'hui, on est redescendu à 5% parce que les cabinets médicaux sont ouverts et que les médecins et beaucoup de patients ont repris leurs habitudes anciennes. Mais la téléconsultation est quand même en forte croissance. Et en fait, il y a un certain nombre de médecins qui s'y sont véritablement mis, à tel point c'est qu'ils sont, pour certains médecins, ils dépassent le plafond des 20%, qui pour l'instant est un plafond réglementaire que chaque médecin individuellement ne doit pas dépasser. Mais il y a beaucoup de médecins qui s'y sont vraiment mis, et puis il y en a d'autres qui s'y sont pas encore mis, mais qui viendront, parce que quand on découvre la téléconsultation et la téléconsultation de qualité, avec des outils de qualité, avec de la formation, ce que nous on fait, on n'est pas un vendeur d'outils, on n'est pas un équipementier, on accompagne les médecins salariés ou libéraux dans leur pratique de la téléconsultation, en les formant, on a un comité scientifique et éthique, on a des opérations qui suivent des indicateurs de qualité médicale, tout en préservant bien entendu le secret médical qui doit exister entre un patient et un médecin. La croissance va continuer à se faire. En tout cas, chez nous, elle se fait. Qu'est-ce qu'il faut pour accélérer de nouveau cette croissance? Il y a un certain nombre de freins réglementaires et de résistance, on va dire, un peu ordinale ou de conservatisme. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a souvent beaucoup d'anxiété ou de scepticisme, mais ce sont des barrières qui vont être dépassées. Moi, je me souviens quand au début de l'internet, on disait non, faut pas acheter en ligne parce que on va se faire pirater. On sait pas qui est derrière. On va se faire pirater sa carte bleue, vider son compte en banque, etc. etc. Bon, aujourd'hui. On se pose plus la question.
C'est possible, mais voilà.
Et ça sera pareil pour la téléconsultation. J'en entends de moins en moins de gens qui disent oui, mais attends, téléconsulter un médecin en vidéo, non mais c'est de la foutaise, c'est pas possible. Moi, je l'entendais encore il y a 3 ans, il y a 2 ans maintenant, je l'entends de moins en moins. Et effectivement, ça sera plus une question qui existera bientôt.
Mais pourtant, moi le premier, c'est vrai que dans mon inconscient, dans mon conscient, j'ai quand même encore l'impression aujourd'hui que quand je vais voir un médecin en face à face, son soutien, en tout cas le moment que je passe avec lui, est plus qualitatif que quand je le vois à distance. Alors, est-ce que c'est moi qui me crée qui me crée une idée reçue, ou est-ce que ça reste encore une réalité aujourd'hui?
Ça dépend des cas, et je pense qu'il faut pas voir une pratique supérieure à une autre. Il y a plusieurs manières d'accéder à un médecin, il y a plusieurs manières de pratiquer la médecine. Tu peux aller voir ton médecin traitant dans son cabinet et c'est recommandé. Voilà, nous-mêmes, on privilégie ça. Okay. Mais tu peux aussi aller aux urgences, tu peux appeler SOS Médecin, tu peux faire de la téléconsultation. Il n'y a pas de moyen qui est supérieur à un autre. Tu parles d'aller voir ton médecin, mais tu as probablement dû dégager ton agenda pour aller voir ton médecin prendre un rendez-vous 2 ou 3 jours à l'avance, attendre dans la salle d'attente pendant une demi-heure, et t'as probablement mangé 3 heures ou 4 heures de ton temps. Moi, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, d'ailleurs, j'ai une question pour toi, est-ce que tu as fait une téléconsultation avec Care?
Non, pas encore, bon, voilà. Mais je vais le faire.
Voilà. Donc, une fois que tu auras fait une téléconsultation avec Care, tu te poseras plus la question de te dire mais est-ce que c'est bien machin. Tu vas te dire mais en fait c'est la réaction de la plupart des gens que je rencontre qui me disent j'ai essayé ton truc. D'abord c'est pas mon truc parce que c'est collectif, mais j'ai essayé Care, mais c'est génial, mais je comprends pas que je l'ai pas fait avant, c'est génial.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait tu parlais d'un concurrent. En fait aujourd'hui on a des sociétés en e-santé qui ont un métier et qui vont faire, qui rajoutent une brique en faisant de la téléconsultation, mais qui plutôt mettent une interface entre le médecin et se contentent de mettre une interface entre le médecin et le patient. Pardon. Moi, ce que je retiens, et ça m'intéresse d'ailleurs que tu m'en dises plus, c'est que vous partez du principe que ce n'est pas un autre métier, mais que finalement, c'est un autre apprentissage de faire de la téléconsultation par rapport à de la consultation physique, au point où vous allez jusqu'à les former. Et donc, du coup, est-ce que ça ne vient pas de là aussi, le retour d'expérience que te font les gens, à savoir, c'est une autre expérience. On n'a pas juste l'impression d'avoir une expérience face au médecin dégradé, mais juste une autre expérience.
Tout à fait. C'est une expérience différente, c'est une expérience complémentaire, et en plus qui s'enrichit constamment. C'est-à-dire que nous, notre cheval de bataille, c'est la qualité et l'intérêt du patient. Mais un de nos chevaux de bataille, c'est de faire ce qu'on appelle l'enrichissement de la téléconsultation. C'est-à-dire de faire en sorte que d'une simple conversation vidéo, on rajoute des outils, des algorithmes, que ce soit des choses qu'on développe nous-mêmes ou des choses qui soient développées par d'autres et avec lesquelles on va faire des partenariats. On rajoute des outils pour augmenter la qualité de l'interaction, la qualité du diagnostic, et la qualité de la prescription et la qualité du suivi. Je vais te donner un certain nombre d'exemples. On travaille, on fournit des objets connectés à certaines pharmacies qui permettent d'augmenter, d'étoffer les informations qu'un médecin recueille lors d'une téléconsultation. Donc ça se présente sous la forme d'une petite trousse, comme une trousse de toilette. Et dedans, tu as un stéthoscope connecté, un otoscope pour regarder dans les oreilles connecté, un thermomètre connecté, un dermatoscope qui permet de regarder la peau avec une caméra haute définition. Il y a d'autres choses qu'on va rajouter. Donc, bientôt, tu pourras, même avec ton téléphone mobile, quand je dis bientôt, c'est même dès la fin de cette année, très probablement, tu pourras avoir ton rythme cardiaque, ta pression artérielle, mesurer ton niveau de stress, mesurer tout un tas de choses. Et donc, en fait, tout ce qu'on se disait auparavant, mais non, mais ça, on ne peut pas le faire en téléconsultation. En fait, il y a beaucoup de ces barrières qui sont en train de tomber une à une.
Est-ce qu'on n'ira pas plus loin d'ailleurs que l'expérience même physique avec le médecin ?
Alors, c'est une bonne question. En mon fort intérieur, je pense qu'il y a des éléments, il y a des dimensions sur lesquelles on ira effectivement plus loin. Maintenant, c'est toujours bien de voir son médecin en présentiel, hein, bien entendu. C'est recommandé. Mais quand le médecin a à sa disposition des outils qui lui permettent d'aider son diagnostic, d'aider à sa prescription, d'aider au suivi entre deux consultations, entre deux téléconsultations, d'aider à plein de choses, il est en fait ça devient un médecin augmenté. Et la téléconsultation, en plus de permettre aux patients d'accéder plus facilement à un médecin, puisqu'on sait que c'est très compliqué, c'est très difficile, va permettre aussi aux médecins qui pratiquent avec la téléconsultation et avec tout ce qu'on va mettre autour de voir son savoir qui est absolument fondamental et irremplaçable, de voir son savoir augmenter par un certain nombre de choses. Je vais te citer quelques anecdotes. Moi, c'était il y a 2 ans, j'avais un problème, c'était au plein mois d'août, j'avais un problème au pied après avoir fait du sport. Et donc, mon médecin traitant, bien entendu, il est en vacances. Donc, je fais une téléconsultation sur Care et puis je montre avec mon téléphone mon pied, etc. Et je dis au médecin, bon, je suis désolé, je vous montre avec mon téléphone. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien, et il rigole, et il dit, vous plaisantez, je le vois mieux que si vous étiez dans mon cabinet, parce que je le vois en énorme sur mon écran. Voilà, donc ça m'a fait marrer. Récemment aussi, un truc que je ne pensais pas faire, mais ce qu'on se disait, on connaît nos limites, on connaît les limites de la téléconsultation, et donc on ne va pas au-delà. Mais, par exemple, on sait que... Pour voir si un genou ou une partie du corps est inflammée, par exemple, c'est bien de palper. Voilà, c'est bien de palper pour voir aussi si c'est gonflé, si c'est chaud. Et on se dit, ça, on ne peut pas le faire en téléconsultation. Voilà. Et il n'y a pas longtemps, j'avais un problème à la jambe. C'était un samedi. Mon médecin traitant, pas dispo avant plusieurs jours. Problème potentiellement grave. Donc, je fais une téléconsultation. Et puis, juste avant... Je prends mon thermomètre frontal et je me dis, tiens, j'ai l'impression que c'est chaud. Et donc, je regarde et effectivement, ma jambe droite, il y avait 1 degré. Mon thermomètre frontal montrait qu'il y avait 1 degré de plus qu'à gauche. Okay. Okay. Et donc, quand je discutais avec le médecin, il me dit, est-ce que c'est chaud? Je dis, oui, il y a un degré de plus. Donc, il a pas pu poser sa main, mais il a quand même pu avoir l'information. Et ça, bon, ce sont des anecdotes, mais en gros, il y a tout un tas d'outils qu'on va pouvoir ajouter. On travaille beaucoup sur la santé mentale, qui est un sujet très important et qui nous tient à cœur. Et on a une application de santé mentale, une application compagnon de santé mentale, on l'appelle, qui s'appelle Mon Sherpa, qui permet de faire un certain nombre d'exercices autour de la santé mentale, mais aussi qui permet aux gens de suivre leur niveau d'énergie, d'humeur, etc. Et donc, qui fait que un médecin, lors de la prochaine téléconsultation, il va pouvoir voir un petit peu, avec l'accord du patient bien entendu, il va pouvoir voir comment a évolué l'humeur du patient, est-ce que ça a été stable ou pas. Donc il y a de nouveau la téléconsultation, c'est juste c'est un début. Il y a énormément de choses qui sont en train d'être ajoutées autour et qui vont augmenter, enrichir, améliorer la qualité de l'expérience et patient et médecin.
J'imagine que le gros du travail pour vous, même si, comme tu dis, il y a une question d'adoption par les patients, c'est surtout une question d'adoption par les professionnels de santé. Si les professionnels de santé ne veulent pas adopter la téléconsultation, il n'y aura pas, même si les patients sont partants, il n'y aura pas de téléconsultation. Il y a encore des sceptiques. Je ne sais même pas sûr que ce soit une question de génération. Quand tu dois faire de la pédagogie à ces médecins qui très souvent ont un peu les mêmes arguments, qui de dire « je ne veux pas être l'objet de l'outil », c'est-à-dire que c'est moi le médecin et ce n'est pas l'outil qui me drive, et où je ne vois pas l'intérêt, en fait, ça ne remplacera jamais, ce ne sera jamais aussi bien que ce que je fais dans mon cabinet depuis 10, 20 ou 30 ans. C'est quoi votre pédagogie? Qu'est-ce que vous dites à ces médecins pour essayer de leur expliquer l'intérêt?
Alors la vérité, c'est que ce n'est pas nous qui faisons de la pédagogie, ce sont les médecins qui travaillent avec nous. Okay. Moi, j'ai toujours cru que j'ai une croyance forte qui est qu'il n'y a pas de meilleur commercial
que les autres
médecins, qu'un client qui est content. Voilà. Et les médecins qui travaillent avec nous, on peut toujours faire mieux, bien sûr. Il y a plein de trucs en plus qu'on devrait faire et qu'on va essayer de faire. Mais globalement, ils adorent. Et donc, ils en parlent autour d'eux. Et on leur demande d'en parler autour d'eux. Et ce sont eux qui ramènent des confrères en leur disant « Mais attends, j'ai essayé. » Parce que moi j'ai pas de... Si, je ne suis pas médecin. Donc, si je parle à un médecin en disant « Mais si, la téléconsultation, c'est super. » Ils vont dire « Oui, mais attendez. » Vous êtes gentil, mais vous n'êtes pas médecin. Voilà. Alors qu'un confrère qui parle à un autre confrère et qui lui dit, tu devrais essayer, c'est vraiment super. Voilà. Et ils racontent leurs propres expériences. Moi, on a une médecin qui travaille avec nous là, depuis longtemps, qui m'a rapporté quelques exemples récemment où elle avait réussi à détecter, juste en parlant avec un patient, un début de cancer. Deux fois d'ailleurs. Et en lui disant, mais attendez, là, je pense qu'il y a un truc, etc. Vous devez aller faire tel et tel examen. En téléconsultation. Et donc, c'est sûr, quand on entend ça et quand elle en parle à d'autres médecins... Alors, ça, je ne suis pas en train de dire que quand on prend ce qu'on a un cancer, il faut téléconsulter. Je dis juste que...
Il y a aussi des exemples.
Et voilà, il y a des exemples et que les médecins qui adoptent la téléconsultation et qui sont conquis par cette pratique, qui est une pratique complémentaire et qui ne doit pas être une pratique exclusive, loin de là... ce sont eux qui vont convaincre leurs confrères.
Tu me disais il y a quelques minutes, est-ce que tu as essayé? Non, et je vais le faire. D'ailleurs, j'espère pas tout de suite, ça voudra dire que j'ai une pathologie ou autre, mais tout de suite, il y a une question qui m'est venue à l'esprit. Comment ça se passe? Qui amènera à une autre question d'ailleurs de votre business model après. J'ai une pathologie ou un besoin, je télécharge une application Care. Je peux directement voir un médecin? Il faut que j'ai une prescription? Comment ça se passe?
Ça se passe comme quand tu prends rendez-vous dans un cabinet. C'est-à-dire, effectivement, soit tu vas sur le web et puis tu fais care.fr, voilà. Soit tu télécharges l'application Care. Tu vas choisir, soit tu vas chercher un médecin par son nom parce que tu as envie de voir un médecin particulier et puis tu vas voir s'il travaille avec nous ou pas. Ou bien tu vas choisir une spécialité, tu vas choisir un créneau horaire ou tu vas décider plutôt de ne pas choisir de créneau horaire et de te mettre dans une file d'attente. Tu peux aussi choisir par localisation géographique, puisque c'est toujours mieux, même si tu téléconsultes, c'est mieux de téléconsulter avec un médecin qui est pas très éloigné de toi, parce que comme ce sont des médecins qui font également du présentiel, soit en cabinet ou en hôpital, tu peux ensuite éventuellement aller les voir. Donc tu as plusieurs moyens d'effectuer ta recherche, et puis ensuite tu vas réserver un créneau ou te mettre dans une file d'attente et avoir le médecin en vidéo. Tu peux lui envoyer des documents, des photos, des radios, des comptes rendus biologiques au préalable, si tu veux. Tu vas répondre à quelques questions concernant les traitements que tu prends, les allergies, Voilà. Et ensuite, tu vas avoir ta consultation.
Ok, donc assez classique. Et derrière, on se fait généralement rembourser, si c'est possible, puisqu'on a la chance d'avoir l'assurance maladie et un très beau système de soins en France. Se pose la question du business model. Moi, c'est une des choses qui me fascine, ou en tout cas qui m'intéresse le plus dans le monde de la santé. Comme toi, je ne suis pas médecin et je découvre aussi assez récemment cet univers. Mais je trouve que voilà, c'est quelque chose d'assez fascinant aussi dans ce milieu, la question du business model, qui est beaucoup moins évident que dans d'autres industries. Donc vous, comment est-ce que vous financez parce que vu la croissance que vous avez, on en parlera après, c'est quelle entrée d'argent? Comment ça se passe?
Alors, c'est un secteur qui est très réglementé et donc compliqué, effectivement. Notre business model, c'est de percevoir des frais de service et des frais d'équipement pour les médecins libéraux que l'on équipe et que l'on forme à la téléconsultation. Et pour les médecins salariés, on travaille avec des médecins qui sont salariés de centres de santé avec lesquels on est partenaire. Okay. Et donc pareil, on perçoit des frais de service.
Il n'y a pas de médecins salariés de CARE, c'est des médecins salariés de centres partenaires.
Oui, tout à fait. On a quelques médecins salariés chez nous, mais qui travaillent au siège, ouais, sur les opérations, les pratiques médicales, le suivi de la qualité. Mais sinon, on travaille avec des centres de santé qui ont des médecins salariés et qui sont partenaires.
Ok. Tu as quelques chiffres à nous partager sur CARE, sur l'équipe, sur le développement commercial, sur qu'on fasse une idée de là où vous en êtes aujourd'hui.
En France, on est à peu près 140 personnes aujourd'hui, et on a fait jusqu'à présent 2 millions de téléconsultations, et on a 95% de satisfaction utilisateur.
J'ai les yeux qui s'ouvrent parce que je trouve ça énorme, mais tu as un élément comparatif peut-être avec le marché? Pour voir si c'est vraiment.
Alors, sur le taux de satisfaction, c'est quelque chose qu'on mesure en interne, donc je ne connais pas celui des confrères, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a sur l'App Store et Android, on a la meilleure note des applications de santé, toutes catégories de santé confondues. Okay. L'application de santé. Et on a ce qu'on appelle un NPS, c'est-à-dire un Net Promoter Score auprès des médecins. C'est du jargon un peu marketing, mais bon, ceux qui connaissent reconnaîtront. On a un NPS qui est très très élevé côté médecin, okay. Qui est même, je crois que qui est
conséquent.
Ouais.
Ok.
Et qu'est-ce incroyable.
Parce qu'on apprend plus de par les critiques quand elles sont constructives, en tout cas que par les compliments. Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs comme axe d'amélioration de ces 5%, on va dire, de patients qui ne sont pas spécialement satisfaits? C'est lié à quoi?
Il y a des critères, c'est lié à des retards de médecins ou des médecins qui n'ont pas voulu prescrire certaines choses que les patients, que certains patients auraient voulu avoir, parce qu'il y a des patients, par exemple, qui voudraient avoir un arrêt de travail ou...
Oui, donc c'est pas lié à la
certaines care. Pilules, et le médecin dit bah non, voilà, les médecins, ils ont heureusement leur libre arbitre et leur indépendance et leur conscience professionnelle. Donc ils font pas toujours ce que le patient leur demande de faire. Il peut aussi y avoir parfois des petits problèmes, soit techniques ou le médecin qui arrive pas à se connecter ou des choses comme ça. Donc voilà.
Okay. Finalement, il y a très peu d'axes d'amélioration pour vous sur le produit en tant que.
Il y a toujours d'axes d'amélioration, notamment, encore une fois, sur tout ce qui concerne l'augmentation de la qualité médicale, de l'enrichissement, l'augmentation des téléconsultations, la formation continue des médecins à la téléconsultation. Mais globalement, les gens sont assez contents.
Ok, je te propose qu'on fasse une petite pause. On reste ici, mais on a un exercice qui s'appelle « Avec des si ». Parce que comme tu sais, avec des si, on referait le monde. Si tu es prêt, je te propose qu'on y aille.
Très bien.
Jingle. Bon, avec des si, on refait le monde. Je vais te poser des questions qui toutes vont te demander de te projeter. L'idée, c'est de répondre spontanément en deux mots. Tu es prêt?
Oui.
Allez, c'est parti. Première question. Si tu n'avais pas rejoint CARE en 2019, tu aurais fait quoi?
J'étais en discussion pour être CEO d'autres boîtes tech. Okay. Donc j'aurais fait ça.
Ok. Sans citer les noms des boîtes, quelle industrie?
euh,
Non.
Non.
Non. Allez, allez, on passe. Si tu devais passer à autre chose et lancer une nouvelle boîte e-santé en 2022, on se dit que okay, voilà, c'est pour toi l'aventure se termine et tu restes dans l'e-santé et tu lances une boîte, tu vas sur quelle problématique?
Alors, j'en ai deux en tête, mais je ne vais pas les mentionner.
Tu ne les mentionnes pas. Ouais. Ah, okay. Même pas un indice?
Je m'interroge toujours sur qu'est-ce qui a beaucoup d'impact. Quelles sont les problématiques vraiment, vraiment très importantes? J'aime pas trop les niches, en fait.
Tu veux de l'impact global.
Ouais, et y a un ou deux trucs dans le domaine de la santé qui sont pas encore suffisamment dans les esprits, enfin, en tout cas pas dans les esprits de tout le monde,
adressé.
Et qui ont des impacts absolument fondamentaux sur notre santé. Mais bon. Je vais les garder pour moi.
Retenez, au moment où ce podcast sortira, on sera certainement en juillet, et juillet 2022. Donc voilà, s'il se passe quelque chose un jour, ici qu'on en aura parlé en premier. Non, c'est d'actualité. Hein. Si tu avais été nommé député, on imagine, quelle que soit l'étiquette, les jours derniers, ça aurait été quoi la première loi pour laquelle tu te serais battu?
Je ne sais pas. J'allais dire... J'allais dire le droit à l'avortement et la limite sur le port d'armes à feu, mais non, ça c'est aux États-Unis.
Oui, on a changé un peu
plus. Je suis assez féru de politique américaine. En France, je ne sais pas, c'est pour ça que je suis pas député. ni que je me suis intéressé.
En santé, tu penses pas qu'il y a des choses qui...
En santé, il y a... Il y a un vrai besoin d'accès. Enfin, j'aurais libéralisé davantage, et d'ailleurs on a fait des propositions en ce sens, j'aurais libéralisé davantage l'accès à la téléconsultation et la remboursabilité de la téléconsultation, parce que je pense que les règles telles qu'elles sont actuellement sont pas idéales. Les intentions sont bonnes, mais je pense qu'il y a encore du chemin à faire. Nous, on avait plutôt en tête de dire, parce que il faut pas que les gens ne fassent que de la téléconsultation. Il faut qu'ils aillent aussi voir un médecin en présentiel, de préférence leur médecin traitant. Mais en même temps, donc il faut pas que la téléconsultation soit ce que j'appelle open bar. Okay. Voilà. Il faut pas que la téléconsultation soit open bar. En revanche, de dire à chacun, oui, dans l'année, je parle pas des maladies chroniques, hein, que je mets à côté ou là. Pour le coup, pour les maladies chroniques ou même les affections de santé mentale, voir un médecin en téléconsultation toutes les semaines ou tous les mois, plutôt que de se prendre un taxi, transport médical, etc., c'est quand même, l'avantage est quand même une évidence, l'avantage de la téléconsultation. Mais pour les autres, de dire, ça peut arriver effectivement d'avoir un besoin de soins non programmés et que votre médecin traitant, il ne soit pas là, pas dispo, etc. Donc de dire, chacun a droit à, par exemple, un nombre de téléconsultations remboursées par l'assurance maladie, quel que soit le cas de figure. Et puis ensuite, au-delà d'un certain nombre, il faut regarder vraiment est-ce que ça doit être remboursé ou pas. C'est une idée que nous, on avait. Je pense qu'aujourd'hui, alors que nos concitoyens ont besoin de soins et aussi besoin de davantage de prévention, parce qu'on n'a pas parlé de la prévention, on parle de... c'est marrant parce que l'assurance maladie s'appelle l'assurance maladie. Mais en fait, ça devrait être l'assurance maladie et l'assurance prévention, parce que le meilleur moyen de ne pas être malade, c'est d'être en bonne santé. Et de prendre soin de sa santé.
Très clair. Si tu devais tout reprendre à zéro depuis ton arrivée chez CARE en 2019, qu'est-ce que tu ferais de différemment?
Je pense qu'on a fait, on a pris les bons choix, les bons tournants. Je ferais peut-être partir certaines personnes plus tôt. C'est pas très gentil ce que je dis, mais c'est une réponse honnête.
Tu parlais de l'humain, de toute façon, dans tous les cas.
Oui, l'humain est vachement important, mais
l'un n'empêche pas l'autre. L'humain ne veut pas dire être trop gentil ou...
Oui, tout à fait. C'est toujours quelque chose dont on discute souvent avec mes camarades CEO dans la tech. C'est quel équilibre, comment avoir le bon équilibre entre le être trop dur et être trop sympa. Voilà, parce qu'il y a, bon, il y a des décisions qu'on doit prendre parfois qui sont...
Ça demande de prendre sur soi.
Ouais,
ça,
qui sont difficiles, qui sont douloureuses, qui sont pas sympas, mais qui sont les bonnes décisions. Mmh. Voilà. Et bon, ça c'est toujours compliqué.
Il y a un entrepreneur qui nous disait récemment, l'humain, c'est pas forcément aller dans le sens des collaborateurs, c'est de faire grandir le collectif et faire grandir les gens dans le collectif. Et donc parfois, malheureusement, il faut se séparer de gens parce que ils font pas grandir le collectif et eux-mêmes grandissent plus. Il résumait comme ça en fait. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Si tu avais la chance, alors là, on joue, mais si tu avais la chance de passer une journée avec l'un de ces défunts personnages, tu préférais passer une journée avec qui ? Avec Steve Jobs ou avec Marie Curie ?
Profil assez différent.
Santé, tech.
je crois que Steve Jobs est probablement intéressant. Enfin, probablement était très intéressant, mais il paraît que c'était pas un type très sympa. Marie Curie. Parce que d'abord, moi, je trouve que on est dans un environnement où c'est encore très difficile pour les femmes d'avoir des carrières, des postes importants, même quand elles sont à des postes importants, elles sont parfois on doute d'elle, etc. Donc, je pense que c'est hyper dur pour une femme de réussir dans la vie économique ou politique. Et je suis hyper admiratif à chaque fois que je vois une femme qui est dans une position de leader. Et donc, je me dis, Marie Curie, qui était une femme, et en plus, c'était encore...
Un autre temps.
Ça devait être encore beaucoup plus dur il y a longtemps. Donc, je pense que ça devait être une personne assez extraordinaire. Et donc... Ouais, plutôt Marie Curie.
Si tu pouvais revenir 10 ans en arrière, on n'a pas encore la chance d'avoir la machine à remonter le temps, mais admettons, et que tu pouvais investir dans n'importe quelle boîte, on revient en 2012. Là, tu sais ce qui se passe parce que tu viens de 2022, tu investis dans quelle boîte ?
Pour des considérations purement financières, probablement Apple ou Google, ouais. Voilà, mais...
Pour le reste,
pour des considérations personnelles, je ne sais pas. Il y a des boîtes dans le software autour des ressources humaines qui sont assez sympas. C'est un domaine, le software et les ressources humaines, c'est des domaines que je trouve vraiment sympas.
Ok, très clair. Si aujourd'hui on te disait, voilà, Olivier, il faut que tu te consacres à 100% à une tâche, bon, j'imagine qu'on ne te posera jamais cette question, mais admettons, mais par contre, tu choisis la tâche que tu veux, tu irais plutôt sur le marketing, le produit, la finance ou les RH, justement.
Moi, ce qui me caractérise, justement, c'est mon appétence pour tous les sujets. Donc, une question difficile. Ça serait peut-être plutôt le produit, parce que j'aime bien, comme je l'évoquais précédemment, j'aime bien inventer les usages de demain. Et je suis également un utilisateur très très exigeant de services numériques, de services tout court d'ailleurs. J'ai toujours plein d'idées d'amélioration, de remarques. Je suis un utilisateur toujours mécontent des services. Donc le produit, et j'entends le produit et le service qui va autour, sont des choses que j'aime bien. Et d'ailleurs dans la tech, enfin je pense qu'il y a beaucoup de patrons de tech qui sont aussi assez focalisés sur leur produit. Voilà, ce qui peut parfois d'ailleurs, enfin pour ma part, frustrer un peu les équipes parce que parfois je peux descendre un peu dans le détail de certains aspects du produit, alors que c'est pas mon job, mais c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse.
De toute façon, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si tu n'as pas un bon produit, ça ne sert à rien de faire de la finance, tu ne financeras pas ton produit, des RH, tu ne pourras pas recruter et du marketing pareil.
Oui, tu peux dire aussi que si tu as un bon produit mais que tu n'as pas d'argent, tu n'iras nulle part, et que si tu as un bon produit et de l'argent mais que tu n'as pas de people, tu n'iras nulle part. Donc,
c'est interdépendant.
Donc chaque fonction est super importante. Voilà.
Ok. Dernière question. Si je pouvais exaucer ton vœu le plus fou, ce serait quoi ? Celui dont tu acceptes de nous parler.
Ce
ça serait de rendre encore plus heureux les gens qui m'entourent et que j'aime et qui m'aiment.
Ok, on note. Tu le disais tout à l'heure, 150 sociétés à peu près que tu as recensées sur la téléconsultation. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui émerger plein de sociétés verticalisées sur la téléconsultation, autour de la parentalité, de la santé féminine, masculine. Tu les perçois comment, ces sociétés ? Est-ce que ça reste des concurrents ? Ils prennent un morceau finalement de votre marché ? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à travailler avec eux ?
Alors, beaucoup de ces sociétés sont encore de taille très très petite. Donc on verra comment ça évolue. Nous, c'est vrai qu'on est à la fois généraliste et puis on a développé des verticales. Enfin, comme on a par exemple une forte verticale dans la santé mentale,
on va en parler,
qui représente à peu près 10% de nos activités et en laquelle on croit beaucoup. Et puis on a quelques autres verticales en tête, notamment autour du suivi et de la prévention de maladies chroniques. Et d'autres acteurs qui viennent travailler sur quelques verticales, ils sont les bienvenus. D'abord, les besoins sont énormes, donc c'est pas parce qu'il y a quelques autres acteurs qui se créent sur ces verticales que le marché qu'ils vont nous prendre beaucoup d'activités. Les besoins sont tellement gigantesques. Ensuite, ça peut permettre d'évangéliser davantage les gens sur certains sujets ayant trait soit à la santé mentale, ou à la santé féminine, ou à la santé des enfants. Et ensuite, il y a certains acteurs deviendront des concurrents et nous forcerons à faire mieux, à essayer de faire mieux ce qu'on fait. D'autres deviendront peut-être des partenaires, d'autres seront peut-être des cibles de rachat, on verra. Voilà, mais moi, je trouve que c'est bien qu'il y ait l'émergence d'initiatives.
Tu le disais, ces sociétés, pour l'instant, ne sont pas encore très grandes, mais d'ailleurs, est-ce qu'elles ont vocation quand on se verticalise ? Tu disais tout à l'heure, je ne suis pas spécialement intéressé pour aller sur des niches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est finalement toucher le plus grand nombre. Mais, faire de la téléconsultation verticalisée sur une pathologie, sur une typologie, alors ça dépend de la pathologie, mais sur la parentalité, par exemple, je pense qu'ils n'ont dans tous les cas pas vocation à devenir très gros, à moins de partir dans tous les pays du monde et là, de devenir multinational, j'imagine.
Je ne sais pas, il faut leur poser la question.
On leur posera la question. Ouais. Mais je pense qu'on aura dans quelques épisodes, j'ai quelques noms en tête, sociétés sur ces sujets. Ça fait 2-3 fois que tu parles de santé mentale, il faut qu'on arrive sur ce sujet et je voulais te poser un certain nombre de questions. C'est vrai que la santé mentale, depuis le début, moi j'ai tendance à toujours visualiser. Je visualise en fait toutes les pathologies, je m'imagine les pathologies ou les typologies de rendez-vous, de téléconsultation qu'il peut y avoir. J'imagine très bien des gens qui effectivement ont mal à la tête, mal au ventre, mal à la jambe, une brûlure, etc. On a du mal, on a un peu plus de mal avec la santé mentale. J'ai un peu du mal à me dire, déjà à qualifier le mal que je peux avoir et à me dire, je vais aller voir un médecin parce que j'ai mal. Alors, je ne sais pas si on dit j'ai mal quand, avec les sujets santé mentale, mais j'ai ce problème-là. Je ne sais pas si c'est un tabou. Comment est-ce que vous avez dû qualifier ça, j'imagine, vu que vous êtes embarqué sur le sujet de santé mentale ? Pourquoi ce tabou ? Qu'est-ce qui fait que c'est aussi complexe aujourd'hui d'aller et de consulter sur ces sujets-là ?
Alors, je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui n'est pas encore rentré dans les mœurs en France par rapport à d'autres pays, ou en tout cas de certaines régions dans d'autres pays. Je pense aux États-Unis, ou quand on est sur la côte Est ou sur la côte Ouest, consulter un psychiatre ou un psychologue... Fait partie de la norme. Voilà. Et en France, effectivement, il y a encore... c'est pas un tabou, mais il y a encore une sorte de stigma qui est associé
à la
santé mentale, enfin, aux besoins de s'occuper de sa santé mentale. Alors, ça change avec les jeunes générations, on va y revenir. Mais c'est vrai qu'en France, quand on pense santé mentale ou quand on pense psychiatre, d'abord on pense fou, oui. Voilà, ou bien on pense faible. Voilà. Donc si j'ai besoin de consulter un psychiatre ou un psychologue, même de manière temporaire, c'est que je suis faible, j'arrive pas à surmonter mes difficultés moi-même, puisque dans la santé mentale il y a des facteurs qui peuvent être des facteurs génétiques, enfin des prédispositions particulières, et puis aussi des facteurs qui peuvent être des facteurs externes, c'est-à-dire voilà, des, des événements qui vous arrivent, décès, ruptures, échecs, enfin des choses comme ça, agressions. Et en France, je crois qu'on est les Français, on est un peuple encore assez fier. Donc on est, y a encore beaucoup de gens, je pense, qui sont dans le déni du fait qu'ils auraient besoin de consulter en santé mentale. Or, on sait très bien, d'abord, la santé mentale, c'est le premier poste de dépense de l'assurance maladie en France, toutes catégories confondues.
Comment c'est mesuré, ça? Comment est-ce qu'on
c'est l'assurance maladie qui mesure
le coût. Okay.
Voilà. Et mais on estime qu'il y a l'assurance maladie ou les différentes études qui existent estiment qu'il y a 30% des gens en France qui devraient consulter au sujet de leur santé mentale. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni et puis qui pensent que ça va leur faire paraître comme faible. Voilà. Ce qui est dommage, ce qui est une erreur, parce qu'on a aussi besoin de s'occuper de sa santé mentale de manière soit permanente, soit temporaire, quand on a des passages à vide, etc. Et d'ailleurs, en fait, la plupart des gens aujourd'hui qui... Enfin, je n'ai pas fait les calculs, mais une grande partie des professionnels de santé qui traitent de santé mentale aujourd'hui sont les médecins généralistes. Parce que les gens vont les voir et leur disent, au fait, oui, j'ai mal à la gorge, mais en plus... Là, en ce moment, ça ne va pas du tout, je ne dors pas bien, etc., etc. Et donc, ce sont les médecins généralistes qui sont d'ailleurs pas suffisamment bien formés à ceci. Et nous, on va essayer d'apporter notre pierre à cet édifice de formation des médecins généralistes sur la santé mentale. Ce sont les médecins généralistes qui traitent beaucoup de sujets de santé mentale de leurs patients. Donc, les gens sont beaucoup dans le déni, un peu dans la honte. Le côté un peu impressionnant d'aller... chez un psychiatre où on se dit on attend dans un cabinet salle d'attente le divan,
c'est anxiogène.
c'est assez anxiogène, c'est assez cliché, voilà. Alors que si vous êtes en Californie ou à New York, celui qui est fou, c'est celui qui n'a pas de
qui n'est pas suivi.
Enfin, c'est les gens disent mais t'es pas suivi, mais enfin ça, mais t'es débile. Voilà,
c'est vraiment tu veux cacher quelque chose.
Voilà. Et ça a tendance un petit peu, je pense, à changer avec les jeunes générations qui en parlent de plus en plus volontiers, de la même manière qu'on parle aujourd'hui de se nourrir correctement, le climate change, etc. Le fait de s'occuper de sa santé mentale devient quelque chose qui est plus accepté, plus à la mode, entre guillemets. Voilà, donc j'espère que ça... Nous, on essaie de déstigmatiser ça. Et c'est vrai que la téléconsultation aussi permet à certaines personnes de s'y mettre en se disant plutôt que de prendre rendez-vous dans un cabinet, d'y aller, machin, j'ai un peu peur, je vais essayer de faire une téléconsultation avec un psychiatre, avec un psychologue, puis on verra bien. Et puis je le fais de chez moi, de ma chambre, de mon canapé, et puis on verra bien. Voilà. Et également, en France, il y a très peu de psychiatres dans beaucoup de régions, peu de psychiatres. Donc c'est très difficile d'en trouver. En téléconsultation, c'est plus facile.
Surtout que j'ai l'impression que le sujet de santé mentale, le match avec le professionnel de santé est beaucoup plus important sur la santé physique, à savoir un psychiatre, soit ça matche, soit ça ne matche pas, un psychologue pareil, alors que un médecin, tu me diras sur des pathologies graves, si, mais un médecin généraliste, par exemple, un médecin qui aime soigner de manière courante, n'a pas forcément besoin d'avoir un gros affect. Donc, j'imagine que ça joue aussi. Si déjà il n'y a pas beaucoup de psychiatres à côté de chez soi, pour trouver le bon psychiatre, c'est pas évident.
Tout à fait. Et donc, ce qu'on essaye de. Mais auparavant, je voudrais revenir sur la déstigmatisation. Moi, je suis très admiratif de sportifs de haut niveau, par exemple, comme Naomi Osaka,
tennis-woman.
Qui, à un moment, a dit mais moi, en fait, je ne veux pas faire d'interview. Parce que après les matchs, parce que c'est pas bon pour ma santé mentale, et si ça veut dire que je dois arrêter de participer à des tournois de tennis et de gagner de l'argent, etc., c'est pas grave, parce que ce qui prime d'abord, c'est ma santé mentale. Je trouve ça super, quoi, de dire non mais attendez, la santé mentale, c'est pas des conneries, c'est important, et donc voilà, moi je le mets en priorité de mes priorités, et j'ai pas honte de le dire. Voilà, et y a d'autres sportifs ensuite qui en ont beaucoup parlé. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, pour revenir à ce que tu disais, effectivement, sur la santé mentale, hein, quelque chose qui est important, c'est d'avoir le bon matching, entre la bonne adéquation entre le patient et le praticien. Et donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on essaie de travailler en posant davantage de questions aux patients et puis aussi aux praticiens, parce qu'il faut que ça, il faut que ça matche bien, c'est important le fit. Voilà, donc ça va être un sujet de recherche chez nous.
Parce que j'ai l'impression que sur les sujets de santé mentale, j'imagine que le taux de... Je ne vais pas prendre des éléments, du jargon marketing, mais il y a beaucoup de patients qui ont une première consultation et qui ne retournent pas derrière parce que ça ne matche pas. Et c'est un bon prétexte aussi de ne pas continuer. Alors que sur de la santé physique, typiquement, quand j'ai un cancer, même si ça ne matche pas, je vais continuer parce que je me dis, attention, si j'arrête de consulter le médecin, mon cas va s'aggraver. J'ai l'impression qu'il y a une prise en considération de la santé mentale moindre, ne serait-ce que parce que les gens se trouvent plus facilement des excuses aussi pour ne pas continuer les consultations. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail là-dessus à faire pour faire en sorte que tous les patients qui consultent en cas de santé mentale, de problème de santé mentale, fassent tout le cheminement jusqu'au bout. J'ai l'impression que les gens s'arrêtent très très vite, très souvent.
Ça dépend. J'ai pas regardé les statistiques récemment. Ça dépend, mais normalement les gens quand même arrivent à, enfin, font un suivi avec leur médecin de santé mentale. Ou alors c'est parce que les gens n'ont pas forcément besoin de consulter en santé mentale sur la durée, mais ils ont besoin de 1, 2, 3 séances pour les mettre un petit peu sur les rails de certaines choses qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Et ça suffit. On peut consulter en santé mentale de manière courte ou on peut consulter pendant des années.
Ok. Tu parles beaucoup des jeunes. Je me pose aussi une question qui concerne vos sujets sur la santé mentale, mais de manière générale. Qui sont les gens qui consultent sur Care ? Est-ce que ce sont les jeunes ? Pas forcément. On connaît tous ces sujets de fracture numérique aujourd'hui. Fracture numérique, elle est générationnelle. Elle est aussi sociale, mais elle est générationnelle. Donc, est-ce que c'est uniquement les jeunes aujourd'hui ou est-ce que vous êtes assez représentatif du paysage ?
Alors, c'est très large. Donc, c'est des jeunes au moins jeunes. On a même un patient, je crois, de 100 ans. Alors, je ne sais pas qui c'est, bien entendu, puisque secret médical oblige, mais quand on regarde les statistiques, la cause statistique, voilà. Mais de manière prédominante, ce sont des gens qui ont une petite trentaine, voilà, entre 25 et 35 ans, un peu plus des femmes, et ça recouvre toutes les catégories de population.
Il y a un gros travail d'évangélisation à faire chez les hommes, de ce que je comprends, parce qu'il y a plus de femmes, et chez les générations plus âgées, quoi, post 40 ans.
Ouais, je ne sais pas s'il y a un travail d'évangélisation à faire chez les hommes, ou il faudrait regarder les statistiques de consultation aussi. Peut-être que les femmes sont tout simplement plus orientées vers leur santé. Ce sont elles qui aussi généralement s'occupent davantage de la santé des enfants. Voilà, mais je crois que les femmes sont... Et elles ont raison, assez soucieuses de leur santé. Je lisais d'ailleurs, c'est ma femme qui me faisait lire une statistique il y a quelques mois, qu'en fait, un homme marié vit plus longtemps qu'un homme non marié.
Parce qu'il est mieux accompagné par sa conjointe.
Alors, c'est une conjecture, mais la statistique, en tout cas, disait ça, ce qui veut peut-être dire qu'effectivement, quand on a à côté de soi une femme qui s'occupe de sa santé, elle s'occupe aussi de la vôtre.
Ça me fait penser à un sujet d'ailleurs, quand tu regardes aujourd'hui, je prends d'autres métiers dans la santé, mais sujet de santé des femmes, sujet de santé des hommes, je pense que je peux te citer une dizaine d'exemples de start-up aujourd'hui qui adressent les sujets de santé des femmes. Sujet des hommes, j'ai un nom qui me vient en tête, santé des hommes, mais pas plus. Donc, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il y a plein d'opportunités à faire, si tout le monde se décourage en se disant que les hommes sont pas trop, s'intéressent pas assez à leur santé, mais voilà, c'est un chiffre, c'est quelque chose qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi, mais santé des femmes, il y a plein d'exemples de boîtes, alors que santé des hommes aujourd'hui, on est quand même... Nous, on est pauvres sur le sujet. Il y a des boîtes généralistes, mais pas
accès. Oui, mais je pense que ça va s'étoffer. Je pense que les hommes vont s'occuper davantage de leur santé dans les années à venir.
Espérons-le. Pour revenir sur la santé mentale, vous avez pris le parti de vous investir sur la santé mentale en faisant une acquisition en 2020. Enfin, de ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est que vous avez fait l'acquisition de Doctopsy. C'est ce qui vous a permis de mettre les deux pieds dans la santé mentale. Qui a été fondée notamment par, je ne crois pas me tromper, par Fanny Jacques, qui d'ailleurs a rejoint ton équipe, en tout cas fait maintenant travail chez Care comme directrice de la santé mentale. Pourquoi cette stratégie de faire une acquisition plutôt que d'y aller en organique et en développant l'activité chez vous ?
Alors d'abord, une acquisition, c'est souvent le fruit d'une opportunité, d'une rencontre et d'une opportunité. Et il est vrai que on croyait beaucoup à la santé mentale. On voulait faire, on voulait mettre une accélération forte sur ce sujet. Et en même temps, on reconnaissait que on n'y connaissait pas grand-chose. Voilà. Et donc on s'est dit, soit on recrute et on prend le temps de développer nos compétences, notre connaissance, notre expertise en santé mentale, et ça va nous prendre 2 ans. Soit on acquiert une boîte, on a rencontré Doctopsy qui semble avoir envie de s'adosser à une boîte qui a un peu plus de moyens. Et donc cette opportunité, ce désir de part et d'autre qui se rejoignait à ce moment-là, a fait que on a préféré, plutôt que de construire nos compétences à partir de zéro, on a préféré acquérir ces compétences et ensuite les faire les transposer dans la société par capillarité au sein de tout CARE.
Comment s'est passée l'intégration? Il y avait une équipe chez Doctopsy. Comment s'est passée l'intégration chez vous? C'est toujours un vaste sujet.
Alors, il y avait une petite équipe, effectivement, dont des développeurs à Rennes. Et donc, on a renforcé d'ailleurs notre pôle de développement à Rennes, qui travaille maintenant non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur des problématiques du groupe et des problématiques internationales. Il travaille aussi sur des choses qu'on va lancer en Angleterre. Et puis ensuite, on a intégré les différentes personnes dans nos différents départements. Depuis, certains sont restés, certains sont partis. D'autres ont transféré leur connaissances à d'autres personnes dans la boîte.
Le sujet acquisition est intéressant parce que 2020, on fait de l'acquisition de Doctopsy. Et 2021, avril 2021, si je ne me trompe pas, vous arrivez à un moment de votre développement, de votre vie, où vous avez une opportunité, parce que tu parles d'opportunité. Et donc CARE, en tout cas L-Zero, société britannique, a fait l'acquisition de CARE. Est-ce que tu peux aussi nous raconter l'histoire de cette rencontre et pourquoi ça s'est fait comme ça, sachant que CARE était à un niveau de son développement, à une étape où la société se portait bien, se développait, recrutait. Pourquoi avoir fait ce choix et comment ça s'est fait?
Alors, comme toute société qui est en forte croissance et qui a des coûts fixes importants, parce qu'il faut construire un certain nombre de choses, avant d'avoir beaucoup de volume d'affaires. Donc, comme toute start-up, on avait besoin de relever de l'argent à peu près une fois tous les 12-18 mois. Et donc, on repartait sur ce que j'appelle le sentier de la guerre pour lever. Et au travers de nos pitchs à différents fonds, investisseurs ou groupes, on a rencontré un fonds anglais qui s'appelle Markol et qui est le principal actionnaire de ce groupe de santé digitale qui s'appelle HealthyRoo. Et on s'est rendu compte qu'on avait la même vision, la même mission, la même finalité, les mêmes approches, la même philosophie. Nous, on avait envie de faire davantage à l'étranger dans le futur, pas tout de suite, mais dans le futur.
Vous y étiez déjà avant?
Non, on n'y était pas, mais voilà, c'était quelque chose qu'on voyait sur notre, qu'on avait en ligne de mire. Eux avaient envie de se déployer en France, et donc en fait, quand ils ont vu l'opportunité d'investissement CARE, ça a tout de suite fait tilt chez eux. Et donc, ils nous ont fait une offre. Ils ont dit non, en fait, nous, on ne veut pas investir, on veut tout simplement racheter. Ils nous ont fait une offre que
vous ne pouviez pas refuser.
Qu'on ne pouvait pas refuser.
Tu étais ou tu es au capital, toi?
Alors, j'étais au capital, okay, de CARE. Voilà.
Donc, du coup, ça avait un impact direct, au-delà d'être le dirigeant, ça avait aussi un impact pour toi. Enfin, l'impact était vraiment profond, quoi. Tu connaissais les gens derrière L-Zero avant ou pas du tout?
Non, pas du tout. On s'est connus à cette occasion.
Okay.
Et on s'est appréciés. On a vu qu'on avait une philosophie commune. Et c'est très important, en fait, quand on fait des acquisitions, quand on est acquis, de sentir qu'en fait, on va aller dans la même direction. Et c'est pour ça que je dis qu'une acquisition, c'est pas une fin en soi, c'est souvent un départ. Sauf si on dit, non mais en fait... je laisse les clés et le bébé à quelqu'un qui va l'emmener ailleurs, etc. Enfin, c'est ce que j'ai fait quand j'ai revendu ma petite boîte d'édition. J'ai dit, maintenant tu prends les clés, puis c'est ton bébé, puis tu en fais ce que tu veux. Mais là, on voyait qu'on avait un futur commun. Et en fait, c'est une acquisition qui a été presque que moi, je vis presque comme une fusion avec un changement d'actionnaire en même temps. C'est un peu comme ça que je vis la chose.
Et c'est quoi les plus gros défis quand on est chef d'entreprise, qu'on procède du coup à un rachat? Comme tu le dis, c'est surtout structurel le changement, mais dans les faits, l'équipe reste la même, etc. Mais comment tu l'as vécu avec du recul, et quels sont les grands défis auxquels tu as dû faire face, j'allais dire les 12, mais ça fait un peu plus de 12 mois maintenant, 12 derniers mois, vis-à-vis de ton équipe notamment?
Je pense qu'une des choses, parce que j'ai été à la fois du côté acquis et du côté acquéreur dans ma carrière, pas mal de fois, puisque quand j'étais à The Fork, on a acheté pas mal de boîtes à l'étranger. Je pense qu'une des choses qui est toujours délicate, c'est l'intégration des équipes et comment les équipes qui étaient là pour la phase d'avant réagissent par rapport à ce qu'ils voient va être la phase d'après. Et c'est pas seulement dans le cadre d'acquisition, d'ailleurs, c'est aussi dans le cadre de croissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment bien être dans des toutes petites boîtes, qui aiment bien être là au début, qui aiment bien faire la phase qu'on appelle passer de 0 à 1. Et puis après, au fur et à mesure où il y a de plus en plus de processus de décision, de coordination, de plus en plus de stakeholders, de gens à consulter, avec lesquels collaborer, se coordonner, etc. C'est des gens qui se sentent moins à l'aise. C'est des gens qui ne se reconnaissent pas plus forcément dans la taille de la boîte, même si la mission reste la même, la vision, la philosophie, etc. Donc il faut essayer d'embarquer les gens dans cette nouvelle aventure, sachant que certains vont être passionnés et enthousiasmés par cette nouvelle aventure, et d'autres vont dire « Ouais, mais attends, moi, c'est pas pour ça que je suis venu. » Et je pense que pour les gens qui disent « C'est pas pour ça que je suis venu », c'est la vie, il faut l'accepter à la fois de leur côté et de notre côté, et il n'y a rien de mal à ça, il ne faut pas leur lancer la pierre ni réciproquement. Il y a juste des gens qui à partir d'un moment se disent ok, it's time to move, to change. C'est le moment de voilà quoi, j'ai atteint ce que je voulais faire et maintenant je veux faire autre chose.
En fait, en rejoignant LCRO, c'est juste que le collectif que tu incarnais rejoint un collectif un peu plus grand. Comment, là c'est une question plutôt RH, comment on s'y prend quand on a un collectif ici en France avec une culture particulière et qu'on rejoint un collectif plus global, j'ai envie de dire, parce que c'est LCRO, une société britannique, mais de ce que j'ai compris, l'ambition elle est européenne. Comment on s'y prend sur ces sujets, notamment RH, pour embarquer les gens et les faire rejoindre un collectif plus important? Le sujet, c'est pas est-ce qu'ils vont perdre leur place ou pas, c'est comment est-ce qu'ils rentrent dans ce collectif, où j'imagine que là où avant, ils avaient des réunions, des interactions avec des gens qui étaient dans le même bureau, aujourd'hui, ils ont des interactions toujours avec ces personnes-là, mais aussi avec des personnes dispatchées un peu partout. C'est instaurer une nouvelle culture, ça.
Alors d'abord sur HealthyRoo, c'est un groupe qui est vraiment intéressant et que moi j'aime beaucoup de par sa diversité. C'est-à-dire que tu as dit c'est un groupe britannique, oui, il y a des capitaux principalement britanniques, mais quand tu regardes le comité de direction et le CEO, il est d'origine indienne. Il y a donc au comité de direction il y a un britannique d'origine indienne, un français, moi, un italien, un allemand, un anglais, un irlandais. C'est très divers et ça nous sont des gens qui sont tous assez sensibles à la diversité, à la différence culturelle. Voilà. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est se faire dans son entreprise le champion des valeurs de l'entreprise qui a acquis la boîte. Et puis également se faire au sein du groupe le champion des valeurs et de la culture de notre boîte à nous. Donc concrètement, ce qui se passe, c'est que ils ne plaquent pas sur CARE leurs approches, leurs valeurs, etc. Ce sont des choses dont on discute. Et moi, j'ai un input assez conséquent, justement, sur ce que devrait être la stratégie, la philosophie, la culture, les valeurs du groupe. Ce sont des choses dont on discute. Donc on n'est pas. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un peu de. C'est un petit peu comme si c'était une fusion plutôt qu'une absorption. Voilà, mais ces sujets de l'approche, la culture, les différences, etc., sont des choses dont on discute de manière assez ouverte. On avait la chance de... parce que dans le passé, dans ma carrière, j'ai pas toujours fait des acquisitions où ça s'est bien passé. Enfin, surtout une en particulier, où tous les gens sont partis très vite. Mais dans ce cas-là, on a la chance d'avoir une assez grande communalité d'esprit, je me répète, hein, mais d'esprit de vision. C'était un match, enfin un matching, assez fort. Et donc ça marche bien. On se rend compte. Donc Ranjan Singh, qui est le patron du groupe Healthyro, et moi, on est en phase sur à peu près quasiment tout. Et quand on n'est pas en phase sur certaines choses, on en discute et en fait on trouve qu'on arrive en phase. Donc on a beaucoup de chance de ce côté-là. Et les acquisitions, c'est également des questions de fit, mais c'est aussi des questions de chance.
Voilà. C'est une question d'humain, en fait. C'est une question d'humain.
C'est une question d'humain. Ouais, c'est une
si question. Si tu embarques pas les gens, c'est une question d'humain. Il y a des conditions de ton côté. Je sais pas si c'est des sujets que tu abordes, mais les conditions de session. Enfin, c'est quoi les conditions? Est-ce que l'idée pour eux, c'est vraiment de je sais pas, parce qu'à un moment donné, on parle de sujet de rebranding, de rebrander tout en Healthyro et de faire une vraie absorption. Est-ce que l'idée, c'est juste de laisser Care, donner les moyens Care de continuer à grandir? À son échelle, c'est quoi ses conditions de session?
Alors, l'idée, c'est de faire grandir Care, de continuer à faire grandir Care, et en même temps d'avoir des synergies, d'exploiter les synergies qui peuvent être exploitées, soit en apport de technologies, d'outils d'expertise, d'algorithmes, voilà. Care évolue de manière encore assez autonome, mais en essayant de piocher dans le groupe dans les expertises du groupe pour améliorer ce qu'on fait, et puis en essayant également de donner au reste des pays, au reste du groupe, nos expertises, nos expériences, pour pouvoir également les aider à progresser de leur côté, puisque les systèmes de santé entre les différents pays européens ont des similitudes, mais aussi ont beaucoup de différences. Mais au final, la manière d'aborder un patient, d'aborder la santé en tant que telle, en dehors du système de santé, elle est quand même assez similaire. Les êtres humains de ce côté-ci et de l'autre côté de la Manche sont assez similaires.
Dans le groupe Healthyro, en dehors de Care, il y a eu la même logique que tu appelles de fusion avec des sociétés dans d'autres pays, ou aujourd'hui on en est là avec Healthyro, Care?
Alors Healthyro est présent en Irlande, en Angleterre, en Allemagne et en France, voilà, principalement par acquisition successive. Okay. Et pour le futur, on va voir, on est ouvert.
On verra, ouais. Ok, ça dépend des opportunités. Pour rester sur Care, le choix de te faire rejoindre Care aussi en tant que CEO, c'est lié à l'expérience. Je pense que quand on est à ce niveau de développement, on ne prend pas spécialement de gros risques, on prend des gens qui ont de l'expérience, qui est tout à fait compréhensible. Tu es arrivé avec l'expérience, mais tu as dû te prendre quelques claques quand même, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas malgré cette expérience. C'est quoi la plus grosse claque que tu t'es prise chez Care depuis 2019, où tu dis waouh, celle-ci, je ne l'ai pas vue venir?
Alors, je savais qu'en rejoignant Care et donc le monde de la santé, j'allais rentrer dans une certaine complexité réglementaire ayant trait au domaine de la santé. Et ouais, c'est un domaine qui, au niveau réglementaire et puis au niveau des codes, est assez complexe. Et typiquement, quand on rentre dans une nouvelle industrie, en quelques mois, on a plus ou moins compris l'industrie. Ça m'a pris plus de temps
que tu le pensais,
que je ne le pensais.
Et avec du recul, on a tous beaucoup de choses à apprendre, t'as encore des choses à apprendre, mais avec ces 3 ans d'expérience dans la santé, ce serait quoi tes conseils aux entrepreneurs qui sont une phase de développement moins avancée, voire qui se lancent, tes 3-4 conseils pour les aider à... Faut faire des erreurs, mais en tout cas, à maximiser leurs chances de réussir.
De bien faire attention à l'humain. Et aux gens dont ils s'entourent. Ça, c'est ce que savent déjà tous les entrepreneurs. Et alors, dans le domaine de la santé, c'est intéressant parce que c'est un domaine qui est quand même assez différent des autres domaines, hein, dans la tech. Moi, je me souviens, dans une précédente expérience, on disait « Speed wins, move fast, make mistakes and correct ». D'accord ? Donc, avançons vite, et puis quand on s'est planté, ben, on corrige et voilà. Mais dans le domaine de la santé, en fait, on peut pas y aller à la hussarde, quoi.
On joue avec la vie des gens.
On joue avec la vie des gens, et quand on joue à l'apprenti sorcier et qu'on fait des bêtises, ben, ça a des conséquences potentiellement très très graves. Et donc on est obligé dans ce secteur de faire quand même attention. Alors on essaie, ça veut pas dire qu'on fait tout parfaitement, mais c'est quand même quelque chose qui doit rester, qui reste en présence à l'esprit. De manière très très forte, c'est attention, quoi. Attention à ce qu'on fait. Voilà, je pense que c'est pareil quand on doit bosser dans le nucléaire ou d'autres trucs, où faut pas faire n'importe quoi. Et donc il y a ce besoin d'aller très vite et en même temps de faire très attention. Et en même temps d'agir et de se développer et de disrupter dans un, si tu me pardonnes ce néologisme, dans un environnement réglementaire qui, lui, n'a pas du tout envie d'être disrupté du tout. Voilà. Donc faire attention à l'humain, faire attention dans la santé aux patients et à ce qu'on fait. Moi, j'essaie, il y a dans les différentes industries dans lesquelles j'ai travaillé, il y a quelque chose que j'essaie de garder en fil conducteur, c'est la satisfaction client ou la satisfaction patient. En fait, on peut faire plein de choses, mais le truc qui me guide, c'est au final pour qui on travaille et pourquoi et pour quel effet et pour quel résultat. Et donc la satisfaction du client et maintenant du patient, qui est une sorte de client mais pas, enfin c'est un patient, c'est différent. C'est pour moi c'est toujours la boussole qu'on doit avoir. C'est pour qui on travaille, pourquoi faire. Et je pense que c'est le problème d'ailleurs d'un certain nombre de technologies aujourd'hui, où il y a des technologies qui sont inventées et on dit en anglais in search of a problem, c'est-à-dire que c'est une techno qui est cool, mais ça sert à quoi, ça résout quel problème, ça apporte quelle valeur. Et parfois on sait pas très bien, alors on se dit bon, on verra plus tard, mais en fait faut revenir aux fondamentaux, qui est que quels sont les besoins, quels sont les pain points. Comment est-ce qu'on facilite la vie des gens ou la vie des entreprises, est-ce qu'ils sont contents, et après le reste viendra de lui-même. C'est-à-dire que si on crée de la valeur et que les clients ou les patients ou les sociétés sont contentes et qu'on a un business model qui permet d'extraire une partie de cette valeur et donc de payer les salaires, les développements, etc., ben ensuite le reste coule de source. Donc voilà, bien garder en tête les fondamentaux de qu'est-ce que c'est que la création de valeur, pour qui, et ensuite comment extraire cette valeur.
Dernière question pour toi, qu'est-ce qui te motive le plus aujourd'hui ?
C'est l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens. Et je rencontre de temps en temps, quand j'ai le temps de sortir, de rencontrer des gens qui me disent « Ah ouais, j'ai essayé ton truc là et ça, c'est génial, ça m'a sauvé la vie. » Alors ça leur a pas sauvé la vie, mais
ça les aide à gagner.
Ouais, ils m'ont dit mais c'est génial, j'étais dans la panade, etc. Et c'est super et merci beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est super d'entendre ça, surtout qu'on travaille quand même dur et que c'est pas facile tous les jours, ni pour moi ni pour les équipes, et donc d'entendre ça et d'avoir du feedback de gens, de patients, c'est génial, quoi. Enfin, je veux dire, on se dit voilà, même si c'est dur, même si je travaille beaucoup, même voilà, quand je me lève le matin, ça sert à quelque chose, quoi. Et je pense d'ailleurs que ce feedback qui est positif, la plupart du temps, on va essayer, on est en train de réfléchir à comment rendre aux médecins, parce qu'en fait, souvent, quand ils me disent c'est super ton truc, merci beaucoup, je dis non, mais en fait, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le médecin que tu as eu et les équipes. Voilà. Et donc, on va essayer de pouvoir communiquer ce feedback positif de manière plus fréquente aux médecins, parce que les médecins aussi, c'est un métier super dur. Ils bossent énormément, ils s'en prennent aussi souvent plein la tête. Voilà. Et donc de pouvoir leur dire de manière un peu automatisée, on va voir, de dire voilà, il y a des patients qui vous disent merci, c'est important aussi pour eux, c'est important pour nous et c'est important pour eux.
Bien sûr. Ok, écoute, moi j'en ai fini avec mes questions et comme d'habitude, j'ai pas toutes les questions, en tout cas. Toutes les questions ne viennent pas de moi, puisqu'on a rencontré ici au détour des couloirs, notamment des personnes qui ont des questions pour toi. Donc, si tu acceptes, on va te les passer.
Bonjour, Olivier Thierry, je m'appelle Jean-Baptiste Henquin et je vais vous poser deux questions sur la société que vous présidez, CARE, qui est une société proposant des services de téléconsultation médicale. Et je voudrais vous demander comment vous voyez l'univers de la télémédecine dans 5 ans et dans 10 ans.
On reconnaît bien Jean-Baptiste avec qui on travaille, qui est très dans la prospective.
Il faut quelques heures pour répondre à cette question. Mais ce que je vois dans quelques années, c'est que la télémédecine sera rentrée dans les mœurs. C'est-à-dire qu'on ne se posera plus... Je parlais de l'e-commerce tout à l'heure. Alors aujourd'hui on se pose plus la question de est-ce que c'est bien d'acheter en ligne, ou est-ce qu'il vaut mieux acheter en ligne ou dans un magasin. On fait les deux. Est-ce que c'est bien de rencontrer quelqu'un en ligne ou en réel, on fait les deux. Et donc, dans quelques années, la télémédecine sera complètement rentrée dans les mœurs, au même titre que les autres moyens de consulter un médecin. Ça sera devenu une non-question, et puis elle se sera démocratisée, elle se sera enrichie. On entend parler aujourd'hui un petit peu de ce que nous on fait pas, on a décidé de pas faire, mais de cabines de téléconsultation à droite et à gauche. Nous on pense que la meilleure cabine de téléconsultation, c'est votre canapé. Votre canapé avec une petite trousse d'objets connectés. Et c'est comme ça que ça se passera. C'est-à-dire que vous aurez votre trousse d'outils connectés, au même titre que vous avez votre pèse-personne, votre machine Nespresso. Et on croit beaucoup à, j'en parlais au tout début, à l'alliance entre l'expertise humaine et l'expertise digitale. Et je pense qu'on sera, vraiment très fortement dedans. C'est-à-dire que ça ne sera plus le médecin tout seul dans son cabinet avec ses livres sur étagère. Ça sera le médecin dans son cabinet ou ailleurs, en présentiel ou en téléconsultation, avec tout un tas d'outils qui lui permettent de l'assister dans son diagnostic, dans son suivi, dans ses prescriptions. La santé dans le futur sera extrêmement connectée, extrêmement digitalisée, elle sera complètement hybride.
Très clair. Pour Jean-Baptiste.
C'était encore Jean-Baptiste Henquin. Donc ma deuxième question portera sur la science de l'intelligence artificielle qui connaît une phase d'explosion. Et je voudrais savoir comment vous, en tant que PDG de CARE, vous allez appréhender cette révolution de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine.
Alors, bonne question. On a, au niveau du groupe, déjà un certain nombre d'initiatives autour des algorithmes et de l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais qui permettent de faire, et donc en Angleterre, le groupe travaille pour l'assurance maladie en Angleterre, pour la NHS, pour leur fournir des outils qu'on appelle en anglais des outils de triage, c'est-à-dire de pré-diagnostic qui permettent ensuite d'orienter les patients soit vers un médecin ou une infirmière ou les urgences, etc. Donc ce sont déjà certaines choses sur lesquelles on travaille au niveau du groupe. On a un département qu'on appelle le département clinical research, qui travaillent là-dessus. Pour autant, et donc tous ces sujets d'intelligence artificielle, d'algorithme, sont des sujets très intéressants qui sont déjà aujourd'hui déployés par d'autres, hein, pour tout un tas de choses, notamment dans l'analyse des radios, de choses comme ça. Voilà. Pour autant, on reconnaît qu'on ne pourra pas tout faire nous-mêmes, et il y a plein de gens qui travaillent sur ces sujets. Donc nous, ce qu'on regarde ce qui se passe dans le domaine, et ce qui peut venir enrichir ce que nous, on va faire en téléconsultation et en termes d'accès aux soins. Donc on regarde ça avec intérêt, on teste un certain nombre de choses, on va faire des partenariats avec un certain nombre de sociétés que l'on va annoncer. Maintenant, tout n'est pas encore parfait. On a testé récemment une société d'IA dans le domaine du diagnostic dermatologique, voilà, et en fait ça, qui travaille d'ailleurs avec des gens connus dans un autre pays, et ça marchait pas du tout, voilà, donc on a mis fin tout de suite. Alors, on pensait éventuellement l'utiliser, mais on a vu que ça marchait pas du tout. Donc il y a encore, c'est un secteur qui est à la fois très prometteur, et en même temps il y a encore beaucoup beaucoup de progrès à faire pour l'adopter de manière massive. En tout cas, dans certains domaines.
Prochaine question.
Bonjour Olivier, c'est Jeanne Thieu-Bénichou. Donc, je dirige l'Institut au sein de Future for Care. Quel est votre secret, Olivier, pour arriver à la fois convaincre un médecin et de le retenir, mais aussi de convaincre un patient et de le convaincre à rester sur votre plateforme et ne pas justement fuir vers une autre plateforme? Merci Olivier.
Fuir ou partir gentiment.
y a pas de secret. J'y faisais allusion tout à l'heure. C'est que moi, j'ai une croyance forte qui est qu'à partir du moment où les gens sont contents, ils reviennent et ils en parlent autour d'eux. Donc c'est ça le secret, c'est ça la magie. C'est voilà, se focaliser sur pour qui on le fait et ce qu'ils sont, pourquoi on le fait. Et ensuite, le reste coulera de source. Donc, c'est pour ça qu'on suit nos notes, nos taux de satisfaction de manière très, très pointue. C'est que le secret, il est là. Et quand il y a des gens qui me disent « Ouais, en fait, j'ai testé tel autre service là, de téléconsultation. Et bon, c'était quand même laborieux. C'est vachement différent de l'expérience sur Care. » Et je dis « Bah oui, oui, je te confirme, enfin, en tout cas c'est ce qu'on me dit. Donc nous, on n'essaye pas de convaincre les gens. On leur dit essayez, puis vous verrez par vous-même, quoi. Moi j'encourage les patients qui ont essayé Care à essayer d'autres services de téléconsultation, et j'encourage les médecins qui travaillent avec Care à aller essayer de travailler avec d'autres services. Et puis vous verrez bien, voilà. Et d'ailleurs, parce qu'on ne fait pas toujours les choses de manière parfaite, ou on n'est pas toujours les meilleurs, mais si jamais on fait les choses moins bien que d'autres, je veux pouvoir le savoir pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà, donc il est là le secret, il est d'essayer de faire les choses bien pour le bien des gens pour lesquels on travaille.
Dernière question.
Alors Olivier, c'est de nouveau Jeanne. Comment est-ce que vous verriez le développement de la télémédecine avec les hôpitaux, et comment est-ce qu'on pourrait accélérer tout ça, parce qu'il y a énormément d'obstacles?
Alors, vaste sujet. Ça fait longtemps qu'on s'interroge sur comment est-ce qu'on pourrait travailler effectivement avec les hôpitaux, soit avec les médecins des hôpitaux pour leurs patients des hôpitaux, ou alors avec les urgences. On parle de la crise des urgences, et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens vont aux urgences parce qu'ils n'ont pas de médecin par ailleurs, ou des difficultés d'accès aux urgences. Donc on va aux urgences. Moi, quand j'étais petit, on allait aux urgences quand on se coupait la main. Voilà. Aujourd'hui, on a mal à la gorge, on va aux urgences. Non, c'est pas fait pour ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'alternative. Donc oui, faut le faire, mais normalement, c'est pas fait pour ça. Donc on s'est posé la question, et la vérité c'est que en fait l'organisation des hôpitaux est tellement compliquée qu'avant de trouver un je dirais, techniquement, c'est pas très compliqué de travailler avec les hôpitaux. Ça ne serait pas techniquement très compliqué. En revanche, trouver un mode opératoire.
Quelle est la valeur que tu apportes, non ?
La valeur, ça serait d'aider d'abord d'aider les médecins hospitaliers à suivre ou à faire des consultations pré-opératoires avec leurs patients, mais aussi de pouvoir aider à faire de l'orientation patient. Quelqu'un qui arrive aux urgences et qui a quelque chose d'un peu bénin qui pourrait être traité en téléconsultation, il n'y a pas besoin de mobiliser un médecin des urgences ou de faire attendre la personne 6 heures, en plus après qu'elle ait fait 30 km ou 20 km de voiture, etc. Donc on pourrait aider à ça. Maintenant, il y a de la complexité opérationnelle, réglementaire, qui fait que il y a tellement de barrières à mettre en place la solution d'une manière, pas au niveau technique, hein, au niveau organisationnel, qu'on est encore loin de pouvoir faire des choses. Alors peut-être que ça va s'accélérer, peut-être qu'il y a un certain nombre de barrières qui vont être ouvertes, mais aujourd'hui, c'est quand même très, très compliqué. Alors que de dire à un patient qui a un besoin de soins non programmés, qui est chez lui, de dire, ben voilà, tu télécharges l'app ou tu vas sur ton ordinateur, tu tapes care.fr et puis roule, ça, c'est plus simple aujourd'hui.
Ça fluidifie.
Ouais. Donc on aimerait bien travailler avec les hôpitaux, aider à solutionner le problème des urgences. Mais il faut qu'on ait en face des gens qui aussi aient envie de faire ça. Et que ça ne soit pas ultra compliqué.
Je pense que le message entendu, il y a un certain nombre de responsables d'ailleurs d'hôpitaux, de centres de soins qui nous écoutent. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de CARE si vous pensez, vous avez des besoins, mais si vous voulez faire des choses. Le message est passé. Écoute, on arrive au terme de ce podcast. Je pense que j'ai pas regardé le compteur, mais je pense qu'on est quasiment sur un record, je pense, en termes de durée. Je me souviens au moment de la préparation, tu me demandais si on faisait du cut ou pas pour pas que ce soit trop long. Bah là, en fait, au final, on va être certainement sur l'épisode le plus long, mais c'est aussi parce que j'avais plein de questions, parce que effectivement, tu t'es bien prêté à l'exercice. Donc, merci pour ton temps, merci d'être venu nous voir dans What Else. Et pour vous qui nous écoutez ou qui nous regardez, bah, écoutez, n'hésitez pas à partager cet épisode. Ce sera l'épisode numéro 4. Donc, on est au tout début. On a besoin de se faire connaître. Donc, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas, si vous nous écoutez sur Spotify notamment, à nous noter 5 étoiles. C'est rien pour vous. Pour nous, c'est hyper important. On espère avoir une note aussi importante que CARE a sur les stores. Ça nous permettra d'émerger. Et voilà, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci encore, Olivier. Et à très vite pour le prochain épisode. À bientôt. We'll be right back.